7 en politique UQAM. Merci d'être à l'écoute. Allez nous liker sur Facebook. Ça vous tente de communiquer avec nous? C'est la belle façon. Politique correct. Il y a un Y là-dedans, deux R correct. Pas super compliqué. Comme la météo qui s'en vient, il va faire froid jusqu'à demain soir. Après ça, un redoux jusqu'à samedi facile. On parle de moins 10 pour samedi. Mercredi, jeudi, vendredi. Une question d'autour de zéro, autour du point de congélation. On remonte, on redescend. Il y a des petits flocons et un peu de gadou dans tout ça. C'est comme ça qu'on résume ça en gros. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est le moment de rejoindre Éric Lantier, qui a déjà été directeur d'école et qui est un bon spécialiste de l'éducation. On l'a comme polémiste, on l'a comme chroniqueur sur la politique en général dans l'émission. Bonjour Éric.
Hello, Guillaume. Bien content d'être avec vous encore une fois ce soir.
Bien content de te retrouver. Tu as été directeur d'école, je me trompe pas. Je pense que tu as une maîtrise aussi, pour être précis, dans le domaine de l'éducation. C'est quoi déjà?
Administration scolaire.
Voilà. Et aujourd'hui, il sera question dans cette chronique, pour commencer, de la maternelle à 4 ans. Et dans notre préparation hors d'onde, tu mentionnais étatisation de l'éducation. C'est déjà fait pas mal avec les garderies. Et j'ai une impression comme ça que tu veux faire référence au programme de la Coalition Avenir Québec qui promet d'intégrer la chose, la maternelle à 4 ans, de façon volontaire, dès les premières années de pouvoir, s'y rentre.
Ben oui, écoutez, Pauline Marois a fait ça il y a 20 ans, 10 ans, parce que, souvenez-vous, la maternelle, c'était une demi-journée à l'époque. Moi, ce que j'ai connu, puisque mon premier enfant a connu, c'était la maternelle une demi-journée. Donc, premier segment, c'était l'avant-midi, puis à partir de fin janvier, début février, c'était l'après-midi. Là, tout le monde inversait. Et donc, c'était comme ça. Et après, Mme Marois a dit, bien, écoutez, pour faciliter la vie des travailleurs, travailleuses, on va mettre ça à temps plein, mais ça ne sera pas obligatoire. Effectivement, tout le monde a signé et a accepté de jouer le jeu. Et c'est comme ça que ça s'est intégré.
Bien sûr. Les gens sont pronts à dire, oui, voulez-vous plus de quelque chose? Ben oui, pas de problème. On se questionne souvent moins sur les conséquences négatives que ça peut avoir, puis les effets sur le portefeuille, puis c'est pas ce qui est demandé non plus dans les sondages, avec une précision genre, voulez-vous la maternelle à 4 ans, mais ça va vous coûter plus d'impôts. C'est pas précisé dans tout ça.
Non.
J'ai l'impression que le sondage qui mène la CAQ à dire ça, probablement, qu'il y en a eu un, a pas précisé cette chose-là. En même temps, pour certains milieux, ça peut être intéressant. Même chose pour les garderies à prix très modique. C'est, pour certains milieux, une bonne affaire, assurément, Éric. Non?
C'est parce que là, c'est sûr que ça va compliquer les choses. Déjà, la Fédération autonome des enseignants nous dit qu'il y a un problème parce qu'on a un système à deux vitesses. On a des prématernelles, donc des maternelles 4 ans à temps plein. On en a à temps partiel. On en a dans des secteurs, par exemple, où est-ce que les gens sont à revenus modiques, donc dans les milieux défavorisés. Et là, il y a un genre de cafouillage. C'est difficile à arrimer les programmes, à arrimer justement les interventions. Et donc, la Fédération voudrait tout uniformiser ça. Ce qui arrive, c'est que la CAQ, elle, ce qu'elle veut, c'est universaliser les prématernelles en laissant le champ le choix aux parents d'envoyer leur enfant ou non. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va avoir un effet direct sur les garderies parce que un parent, si moi je suis parent d'enfant qui a 4 ans, puis je dis, il va apprendre bien plus de choses en prématernelle, je vais le sortir de la garderie, je vais le mettre en prématernelle. Donc,
moi?
Déjà là. Mais ça coûte plus cher payer pour l'État une enseignante qu'une éducatrice. Normalement.
Ouais. Quoique les éducatrices, c'est quand même bien payé. Ça ne bat pas une enseignante qui a plusieurs années d'expérience. Ça peut monter jusqu'à des 60-70 000. Là.
Tout à fait, exactement. D'une part. D'autre part, le Parti conservateur du Québec, eux, veulent donner 100 $ par famille par semaine pour que les parents puissent choisir s'ils veulent envoyer leur enfant dans une CPE, une garderie privée, ou une garderie en milieu familial. Moi, ce que je dis, moi, ce que je propose, c'est quelque chose d'innovateur, mais puisque c'est innovateur, ça passera jamais.
Peut-être dans 15-20 ans, mon Éric, vas-y fort.
Ah, Oui, ça se peut. Que quand justement les boomers font plus partie là, du panorama, mais que la maternelle 4 ans soit obligatoire dans les secteurs où le décrochage scolaire est élevé. Ça, pour moi, là, c'est sine qua non. Oh. Il faut éduquer le plus jeune possible les enfants. Et ça, pour moi, quand, dans des milieux comme Hochelaga-Maisonneuve ou d'autres secteurs du Québec, où est-ce que c'est prouvé que statistiquement, le décrochage scolaire est élevé, il faut éduquer le plus rapidement possible les enfants parce que le décrochage scolaire commence très jeune, très tôt. Mm-hmm. Dès qu'il y a un retard, les jeunes développent une démotivation, une perte d'intérêt, il y a un recul. Et ça a une incidence définitive.
Effet que je vois tout de suite poindre à l'horizon, c'est que il y a toujours... Il y a un milieu défavorisé, mais il y a des exceptions là-dedans. Et là, les parents qui sont des exceptions vont avoir peut-être tendance à éviter ces secteurs-là, ce qui va rempirer encore la tâche des écoles puis tirer vers le bas le niveau de capacité des élèves, donc de l'école à donner un beau travail, un bel enseignement, non?
Ben, c'est là que moi, j'ai une deuxième proposition qui fait suite à ça, qui fait partie de l'ensemble, pour ne pas dire un package, parce que c'est un anglicisme, et c'est que l'État devrait jouer son rôle et les parents le leur. En d'autres mots, maintenant, avec toutes les ressources électroniques qu'on a, les ressources en communication, les réseaux sociaux, je veux dire, avec un téléphone, on peut faire une entrevue en direct, c'est extraordinaire, la qualité d'image qu'on a avec un appareil téléphonique. Mais maintenant que l'État met au service des parents des ressources pour équiper les parents à faire la prématernelle à la maison. À ce moment-là, les parents qui le désirent, là, c'est pas obligatoire, mais il y aurait des ressources. Il y aurait, par exemple, 3 fins de semaine de formation pour dire, voici comment on travaille avec le matériel, voici les objectifs pédagogiques. C'est pas sorcier, c'est des enfants de 4 ans. Là.
On apprend à écrire son nom, on apprend l'alphabet tranquillement. Puis...
Oui, et surtout, stimuler le goût d'apprendre. Maintenant, là, on a des docteurs en éducation qui ont des PhD, qui font des recherches, puis ces recherches-là, ils restent sur les tablettes. Pourquoi on s'en sert pas pour équiper les parents? Et ceux qui veulent prendre, par exemple, une année sabbatique, puis faire l'école à la maison pendant une année, c'est pas trop stressant, c'est ton enfant, tu peux t'amuser, il y a des jeux, maintenant tu peux aller jouer sur Internet avec toutes sortes de jeux éducatifs pour stimuler l'enfant. Et là, l'État dit, bon, ben, je remplace pas le rôle du parent, mais on se donne des outils d'une façon collective pour équiper les parents à faire leur travail. Il semble que ça serait innovateur. Et ceux qui ont le goût de vivre l'aventure pourraient le faire. Et ces gens-là qui travaillent pour l'État vérifieraient par soit des genres d'examens ou d'évaluations adaptées aux enfants, voir s'ils font un bon travail. Ça pourrait être intéressant.
Effectivement, ça fait réfléchir. En tout cas, je pense qu'il y a moyen de broder autour de ça. On aime toujours tes apports dans ce sens-là, de la réflexion, puis de des façons de voir l'avenir, de développer certaines de nos façons de faire. Et ça va en lien avec un autre aspect de l'éducation qui est le décrochage. Et là, il y a un sondage qui nous est apparu récemment qui montre que l'intimidation serait d'une grande partie responsable de beaucoup de décrochage dans le système scolaire. On peut suivre avec ça. Est-ce que tu penses que vraiment c'est si significatif que ça? J'ai vu, je pense que c'est 52% des gens qui décrochent prématurément ont subi de l'intimidation.
Ça, on a vu le même article.
Oui, tout à fait. C'est un article qui est paru sur les pages du Journal Le Québec et a paru également sur la plateforme de TVA Nouvelles. C'est Daphné Dion-Vien dans les deux cas qui a signé ces deux articles-là. Okay. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que le Journal de Montréal met quand même beaucoup d'accent sur la dimension d'intimidation qui a un lien direct, du moins à 52% sur le décrochage scolaire. Et ça, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Mais ce qui m'a surpris, c'est que sur TVA Nouvelles, on nous révèle que 75% des jeunes qui ont été questionnés et qui ont décroché à l'école, eh bien, s'ennuyaient. Ils s'ennuyaient à l'école. Et moi, ça confirme ma thèse. Ouais. C'est qu'il n'y a pas seulement des gens qui ont des retards, qui décrochent. Il y a aussi des gens talentueux. Il y a des gens qui trouvent que, justement, ça va pas assez vite. Ils sont sous-stimulés.
Il y en a beaucoup à CGMD, ça, Éric Lantier. On a une coupe autour de la table ici. Monsieur Demers, oui?
Et même l'ennui commence début au primaire les élèves.
Je me rappelle qu'ils m'ont mis, moi, j'étais pas pire, ils m'ont mis dans une classe mixte avec des plus vieux. Puis ça, là, j'ai trippé, ça m'a allumé, ça m'a aidé à, par après, peut-être aussi, je sais pas, aller plus loin. Puis j'ai eu des profs qui pouvaient compenser, mais les programmes sont pas faits pour récompenser.
Il y a certainement une adaptation à faire au milieu scolaire. Si on décide de commencer avec la pré-maternelle à l'âge de 4 ans, forcément, si le système est encore le même, ben tu vas juste décrocher plus vite parce que tu vas t'écœurer plus vite, là, à un moment donné. Là. Puis l'autre chose aussi, c'est que je trouve que 4 ans, c'est jeune. Il y a un devoir parental, il y a un devoir de l'État, mais aujourd'hui, c'est 4 ans. Dans 15 ans, on est-tu rendu à 3 ans, 2 ans? Dans le fond, c'est quoi? Tu fais un enfant, puis c'est l'État, dans le fond, qui va te gérer, qui va l'éduquer.
Les garderies, on dit, Alex, ça, on dit ici.
On dirait que le fait est, c'est même pas est-ce que le monde sont heureux puis le monde trouve leur voie ou est-ce que ça prend des diplômés? Parce que s'il n'y a pas de diplôme, dans le fond, le système d'éducation ne fait pas sa job.
C'est pour ça que moi, je veux justement mettre le pied dans la porte et dire, OK, vous voulez étatiser le système d'éducation puis le rendre de plus en plus jeune, bien, impliquons les parents. Les parents, ils ont du jugement. Les parents savent quand arrêter. Les parents savent quand c'est trop. Les parents savent quand l'enfant est plus capable.
Généralement.
On va sortir dehors,
ouais.
Idéalement. Mais si on revient à ce sondage-là,
ouais.
Ce qui m'a également impressionné, c'est que le 2/3 des jeunes qui ont été questionnés aimaient l'école au primaire.
Ah bon?
C'est passé quelque chose entre le primaire et le secondaire.
Ben oui, ça devient plus sérieux un peu. Tu sais, le mot intimidation, je ne sais pas s'il y avait une définition dans l'article, là. On peut revenir à ça un peu. Oui, il y a une cassure. En 6e année, il me semble, le monde est plus facile, puis tout ça. Puis là, la grande école, la réalité frappe fort quand tu dépasses ce gap-là. Côté académique et côté dans la cour, là, quand il y a de l'intimidation en 6e année versus secondaire 1, il me semble que ça fesse plus.
Oui.
De mon souvenir, M.
Oui,
Demers.
C'est ça, ben, oui, c'est sûr que moi-même, j'étais gros dans mon passage à l'école. Alors, on est victime de... Les enfants sont cruels entre eux autres.
Les adultes aussi.
Oui.
Il n'y a rien qui... Tu sais, c'est juste que le milieu est différent, mais ouais. le jugement, à la base,
ben, c'est ça,
ancré dans notre système.
L'intimidation, c'est peut-être un mot trop fort à certains... Est-ce qu'il a été défini dans l'article sur lequel on se base pour discuter, Éric, le mot intimidation?
Ben, c'est surtout des critiques, des insultes quotidiennes... Puis M. Demers l'a soulevé, par exemple, des insultes concernant le surplus de poids sur l'apparence, tout ça. Donc, c'est des moqueries, comme « regarde la vache qui passe », des choses comme ça.
Est-ce qu'on fait référence
est-ce qu'on avait le taux de
jeune, ouais,
est-ce qu'on avait le taux obèse, général de gens qui se sont dit intimidés? J'ai l'impression que ça doit être aussi élevé que pour les décrocheurs. Tout le monde, qui en a pas subi du tout d'intimidation?
Ouais, bon, on parle de 52% dans le cas du sondage.
Des décrocheurs.
Des
décrocheurs.
Dans le sens que parmi les décrocheurs qui on leur a posé la question, qu'est-ce qui t'a amené à décrocher? Ben 52% disaient c'est l'intimidation. Ça ne peut pas aider.
Ouais. OK.
Ouais, c'est
mais tout particularisme d'une personne peut porter à l'intimidation.
Ouais.
Des grandes oreilles, un grand nez.
Mais oui, ça va être décelé par des petits animaux. C'est la jungle, l'école. Pareil. Puis surtout, quand t'as pas de stimulation, t'as d'un côté la jungle, puis de l'autre côté, c'est plate. Il y a de quoi décrocher, Olivier, tu voulais ajouter quelque chose?
Ben oui, ben d'ailleurs, quand tu parles d'ennui puis de stimulation, je pense que, tu sais, est-ce que la question, c'est vraiment est-ce qu'il faut commencer l'école plus tôt ou est-ce qu'il faut peut-être adapter la manière d'étudier ou la manière d'apprendre des enfants? Parce que souvent, quand on va voir des enfants qui vont s'ennuyer, qui vont tomber dans l'une ou quelque chose comme ça, tout de suite, on va les diagnostiquer qui sont TDA, on va les bourrer... de Ritalin ou de choses comme ça. Puis au lieu plutôt d'adapter puis de fonctionner par projet, fonctionner par de l'apprentissage adapté, fait, est-ce qu'on se pose vraiment la bonne question? Est-ce qu'on se penche sur la bonne solution aussi? Peut-être serait d'adapter la manière d'enseigner qui devrait être changée.
Tout à fait. Moi je crois un système à 3 vitesses, un système qui est adapté aux jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, qui va amener, par exemple, à un métier ou qui va amener à être encadré après les études. Autre qui est régulier, qui amène au collégial, et un autre qui enrichit, qui amène éventuellement au milieu universitaire. Moi, je pense que on a besoin de ces trois formules-là parce que le problème en ce moment, c'est que le système d'éducation, il intègre tout le monde.
Ouais.
Et tout le monde perd.
Tout le monde est bon, mm-hmm. mais tout le monde n'est pas bon finalement, effectivement.
Ouais, mais
ça prendrait des passerelles entre ces trois systèmes-là, pareil. Mais il y avait ça dans le temps. Il y en avait deux, je pense. C'était enrichi puis normal.
Ouais.
Ça a été aboli sous prétexte d'égalité puis de gentillesse, peut-être un peu trop. Monsieur Demers?
Mais comme tu le faisais remarquer, Éric, c'est mm-hmm. que si on veut garder nos gens à l'école, il va falloir faire un changement drastique à notre éducation, la rendre très intéressante au début, si on veut les mettre à 4 ans.
Effectivement, et peut-être l'adapter pour le sexe. Les petits gars pourraient avoir le droit d'être des petits gars à un moment prochain, lointain. Ça, ouais. moi, personnellement, là, j'ai, tu sais, on les appelait les matantes, les surveillantes dans le cours d'école, là. Puis c'est vrai que c'était des matantes dans le sens péjoratif ouais, où bientôt ça. On n'aura plus le droit de mentionner ce mot-là, sûrement, quand Manon Massé sera au pouvoir. Mais avoir le droit d'être un petit gars dans le système d'éducation, tu voulais d'ailleurs élaborer là-dessus, Éric Lanzier.
Ben oui, c'est ça. Julie Rambal a écrit un article qui a été publié sur la plateforme du Devoir qui s'intitule « Avoir le droit d'être un gars et d'élever un gars ». Ce qui arrive, c'est que ici, là, dans cet article-là, oh, pardon, c'est pas ça, c'est le titre de ma chronique. Le titre exact, excusez-moi, messieurs, hop. C'est « Face au sexisme, il faut revoir l'éducation des garçons ».
OK. Donc, toi, tu l'as repris puis tu l'as mis un peu plus... OK.
Oui, c'est ça. C'est que face au sexisme, il faut revoir l'éducation des garçons. Ça, c'est le titre officiel de l'article.
Mais
moi, ce que je dis dans tout ça, c'est parce que cet article-là dit essentiellement que l'éducation à l'égalité des genres, c'est d'abord focalisé sur l'empowerment des filles. Donc, on a voulu beaucoup amener les filles à dire « Non, tu peux prendre ta place, même si cette place-là est prise par des garçons.
Ouais. »
Mais ce que ça a amené certains chercheurs puis certains sociologues à se dire « Oh, un instant, mais pourquoi on ne dit pas la même chose aux garçons? Pourquoi on ne demande pas aux garçons de prendre leur place? Puis si leur place, c'est dans un rôle de fille, ben on devrait les encourager, les garçons, à prendre un rôle de fille aussi, si on croit à l'égalité.
Okay. »
Et même en Suède, ce que l'article révèle, ça n'a pas de bon sens. Écoutez bien ce qui est écrit, là. Là, je vous lis textuellement. L'école a adopté plusieurs solutions radicales pour rétablir l'équilibre, notamment en bannissant les termes « filles et garçons » au profit du pronom neutre « hen » qui existe dans la langue suédoise. Donc, c'est plus un gars ou une fille.
Ouais.
Ça me fait penser aux salles de bain que Annie nous parlait là, à l'Université Laval qui vont devenir, ouais. à un moment donné, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de genre, il n'y a plus de masculin, il n'y a plus de féminin. Mais...
Je pensais que tu avais dit salle de bain. Tu sais, ouais. Ça aurait pu être dans ce sens-là aussi. Puis Justin Trudeau, c'était quoi? Mankind, ça se dit plus, c'est people kind.
People kind, ben oui.
Ah, c'est une blague, c'est une blague. Oui, oui.
C'est que ouais. comme si on ne permettait plus aux hommes d'être des hommes. Hmm.
Mais tu en faisais mention dans le tailgate par rapport au système de démocratie qui est très jeune. L'émancipation de la femme, sa place sur le marché du travail est encore... On est maladroit c'est par rapport à ça. Les rôles à la maison ont changé aussi.
C'était à faire de donner un préjugé favorable aux femmes.
Madame faisait tout à la maison. Fait que peut-être que sa fille, son modèle, elle arrivait à l'école, elle faisait tout comme sa mère. Tandis que le garçon, lui, il jouait comme papa rentrait à la maison puis il était là puis c'était ses vacances. T'sais.
Parfaitement vrai. Mais je pense le backlash est à gérer maintenant.
Ceci étant dit, on s'en va vraiment dans une bonne direction, mais il y a encore une adaptation à faire justement sur les rôles que la femme, que l'homme a dans notre société, que ce soit soit à la maison, sur le plan du travail ou à l'école.
Éric?
Ben, ouais, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on a des problèmes justement à l'école avec des garçons qui ont de la difficulté à s'adapter parce que le système est adapté aux filles, est conçu pour un type d'apprentissage qui correspond aux filles. Et les garçons n'apprennent pas de la même façon que les filles. Les garçons, règle générale, ont des intérêts différents. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais il reste que moi, j'ai pas de problème, par exemple, parce qu'un garçon soit attiré par la danse puis veut prendre des cours de ballet.
Non, non.
Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand on interdit, par exemple, à un garçon de jouer avec des fusils, on interdit à des garçons de se tirailler, on interdit à des garçons de faire des cascades, même s'ils sont équipés en conséquence, puis tout est sécuritaire. C'est là que moi je dis un instant, là on va trop loin. Moi, je me souviens, moi j'ai un garçon puis une fille. Quand mes garçons jouaient avec les amis de ma fille, ils jouaient tous au fusil. Puis là, quand mon garçon s'en allait, les filles reprenaient leurs poupées. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme si c'est mon fils voulait pas jouer avec les poupées parce que lui, ce qui l'intéressait, c'est de les fusils. Mais moi, je forçais pas mon fils à jouer aux poupées, puis je l'empêchais pas de jouer aux poupées.
Moi, quand je jouais avec toutes mes cousines, c'était toutes des petites filles, je jouais au Barbie. Tu sais, c'est ça. Il faut pouvoir permettre la polyvalence. Faut pas capoter avec exact. Tout ça.
Mais dans le temps, on jouait, les gars, ils jouaient les cowboys et aux Indiens.
Aussi.
Le roi de la montagne, ça existe encore?
Ouais, avec ta barouche. Mets-toi un casque, ouais. Des coudes, puis une paire de culottes de hockey, là.
Puis signe un waiver.
Oui. Hey, Eric, on va se laisser sur ces beaux constats, ces belles paroles. Merci d'avoir été avec nous.
Bonsoir, Eric.
Ça nous a fait réfléchir.
Au plaisir.
On t'invite à aller lire aussi le blog qu'a écrit notre ami Alexandre Nessard sur les écoles privées et leur financement sur la page Facebook de l'émission. Peut-être un petit commentaire. On est curieux de voir comment tu percevras ça. Mon ami Eric, merci.
Merci, au revoir.
Au plaisir, Eric Lantier, les amis. Vous êtes à l'écoute de Politigui Correct. Et puis, on va prendre une pause de cette façon-là, tranquillement. Merci. J'espère que ça vous fait réfléchir tout ça. Commentez sur notre page, là. Obligé de commenter aussi sur le texte d'Alexandre Lessard. Vous pouvez commenter sur les propos d'Eric Lantier. Politigui, avec un Y, espace. Correct. On vient.